Merci. Peut-être, bah effectivement, hein, on le soulignait au début de cette journée, la question frontalière pour nous fait c'est un peu comme une sorte de boucle qui repart. Il y a 7 ans, on avait ce colloque sur Terre et Gens de Frontières qui avait eu lieu en décembre 2011. Et puis, bien évidemment, 7 ans après, cette question-là, elle est toujours d'actualité dans les médias, d'actualité dans les différents champs de la recherche en sciences humaines ou dans d'autres disciplines. Et c'est vrai que cette journée très foisonnante est tout à fait à l'image des agitations qu'il y a autour de ce grand et vaste sujet. Peut-être, je vais essayer, j'espère pas trop péniblement, de revenir sur quelques grands blocs, peut-être qui sont apparus au fil des discussions et des quelques 13 ou 14 interventions de la journée. Intervention donc à la fois qui portait sur de l'histoire, de la sociologie, de l'ethnographie, des pratiques photographiques, artistiques, littéraires. On voit vraiment là toutes les possibilités autour de ce sujet des frontières, des portes d'entrée sur cette thématique, avec des méthodologies de travail qui sont très différentes, mais qui témoignent toutes d'une même préoccupation de témoigner des réalités des frontières et de leur passage, dans un contexte qui est à la fois marqué par une actualité brûlante et en même temps une actualité qui est durable, presque permanente maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années. Dans ce foisonnement d'initiatives, on voit une sorte de jeu de miroir entre le passé et le présent, jeu de miroir qui est teinté en plus d'enjeux humains qui sont particulièrement dramatiques et qui marquent l'ensemble des travaux qu'on a pu entendre aujourd'hui. Un jeu de miroir également entre la fiction et la réalité, hein, qui a été évoqué dans les différentes interventions. Jeu de miroir aussi entre l'art, les pratiques artistiques, le documentaire, qui a pu être évoqué dans différents échanges. La question des récits, c'est aussi la question de la parole des acteurs frontaliers qui peuvent être ceux qui traversent la frontière, ceux qui sont les garants de l'ordre de la frontière, leur position, leur ressenti. Et ce qui était particulièrement riche dans la journée, hein, c'était de voir qu'il pouvait y avoir cette question de la parole à la fois à travers des documents archivistiques, à travers des fictions, à travers des travaux documentaires d'aujourd'hui. Quand on parle du plus contemporain, cette question de la parole des acteurs, c'est aussi celle de la posture des migrants vis-à-vis des travaux qui les touchent aujourd'hui, ou en tout cas qui les prennent pour objet. On a pu avoir notamment cette série d'échanges autour du travail photographique de Rebecca Marshall au début de la journée. Et puis, toujours lorsqu'on parle des acteurs de la frontière, une interrogation qu'on a pu visiter à plusieurs fois dans la journée autour de la figure du passeur. Le passeur vu tantôt avec des connotations négatives, tantôt avec des connotations peut-être plus positives quand on parle d'action de solidarité. Enfin, on voit que là qu'il y a une complexité de cette figure qui était tout à fait intéressante au fil de cette journée. Les récits de la frontière sont aussi des récits de lieux. Des lieux qui sont plus ou moins étendus. On a vu qu'il y avait des interventions qui pouvaient porter sur des lieux très précis, comme le sentier du Pas de la Mort, la guerre internationale, ou un ensemble plus vaste comme la vallée de la Roya, bien sûr. Et puis, la question des lieux, on l'a vu à l'occasion d'un échange assez long, hein, ce sont aussi la question des frontières qui ne sont plus les frontières de proximité immédiate, mais les frontières qui sont en quelque sorte externalisées ou délocalisées. La question du contrôle aujourd'hui des frontières européennes qui se jouent aussi au Niger, au Mali, dans les espaces subsahariens, ce qui interroge là encore ce sens polysémique de la notion de frontière. Les récits, ce sont bien sûr des mots, ce sont un ensemble de vocabulaire qu'on utilise, parfois avec des logiques, je reprendrai ici l'expression de Stéphane Morlin, de séparer le bon grain de l'ivraie, un vocabulaire qui n'est jamais neutre. Et c'est vrai qu'on a pu voir en transparence, hein, dans cette journée, en filigrane, en quelque sorte, cet enjeu du vocabulaire, de la sémiologie, qui est tout à fait, là encore, intéressant et qui se décline aussi dans la question de la littérature. Et puis peut-être pour conclure, ce qui a peut-être été moins évoqué dans la journée d'aujourd'hui, c'est aussi la question de la transmission de ces récits. Vers quel public, à travers quelles institutions, et peut-être là c'est plus avec la casquette chargée de mission du Musée national de l'histoire de l'immigration que j'en arrive en quelque sorte à cette conclusion, hein, c'est que aujourd'hui c'est aussi un des grands enjeux, comment est-ce qu'on réussit à faire passer ces récits, cette complexité des récits de la frontière auprès du grand public, à travers des institutions qui seront aussi des institutions culturelles, qui seront les institutions universitaires de la recherche. On a évoqué, à travers le travail de Luca Giliberti et des échanges qui ont suivi, les paradoxes de la médiatisation, qui sont aussi un enjeu fort avec lequel il faut pouvoir composer. Et c'est vraiment peut-être aussi sur cet enjeu-là, je pense qu'il y a à réfléchir, et particulièrement du côté des institutions culturelles, parce que nous avons tous collectivement une responsabilité par rapport à ce sujet qui est particulièrement grave. On a évoqué la constitution d'une sorte de GIEC des migrations. Tout à l'heure, c'est Stéphane qui parlait de ça. Effectivement, ça pourrait être une idée, une piste à creuser, à avancer, mais on sait tous aujourd'hui que ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi des relais pour ce type de travaux, et je pense que là-dessus, voilà, beaucoup d'acteurs devraient réfléchir à ce sujet.
C'est bon. Merci, Michael, pour tes propos. Bon, je ne vais pas surenchérir sur ce que tu viens de dire. J'essaierai d'apporter aussi quelques éléments de conclusion par rapport à tout ce qui s'est dit. Donc la grande effectivement densité de la journée, elle est claire, et bon, je pense que tout le monde est un peu sans doute écrasé par tout ça, épuisé peut-être aussi, enrichi aussi, j'espère en tout cas, hein, et je sais que certains d'entre vous sont là depuis ce matin 8h45, donc voilà, un petit marathon, mais bon, c'est souvent comme ça. On en veut beaucoup, et on n'est jamais satisfait non plus, puisque au final, on se dit que tout n'a pas été dit et que ce n'est pas exhaustif. D'ailleurs, la journée n'avait pas cette vocation, hein. C'est une journée d'études, donc journée d'études qui, moi, me satisfait dans la mesure où la vocation, elle est claire. Et ça, c'est un peu différent peut-être d'il y a quelques années. Tu parles de cette balise de 2011 dont on parlait, une journée qui est ouverte, et je suis sensible et heureux que certains citoyens, on va dire, hein, qui n'ont pas forcément de lien avec la recherche, qui n'ont pas forcément de lien avec des militants, ni même avec la frontière en tant que telle, soient là présents pour participer à ces débats et connaissent désormais ce qu'est la Maison des sciences de l'homme. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc l'autre élément, c'est effectivement d'avoir essayé en équilibrant, de diversifier les approches et de faire dialoguer. Ça me semble un élément nouveau aussi dans la recherche, que de faire dialoguer des artistes, des écrivains, peut-être aussi, alors on n'a pas toute la panoplie, hein, des cinéastes, on aurait pu l'envisager, des photographes, c'est-à-dire ceux qui donnent un autre type de récit. Parce que je crois que c'est nécessaire aujourd'hui que d'être tempéré par ces autres récits qui ne sont pas simplement les récits scientifiques. En tant que scientifiques, nous, disons chercheurs, historiens, sociologues, politistes, géographes, on ne peut pas faire l'économie, me semble-t-il, de ces récits qui viennent nous investir, en quelque sorte, notamment sur cette frontière. Et je crois que c'était l'ambition de mettre des récits en miroir, de mettre à chaque séance ceux qui ne sont pas forcément des chercheurs, qui apportent aux chercheurs. Donc, quelque part, on est venu se nourrir aussi de nous-mêmes. Mais je sais aussi que les écrivains, on en parlait ce matin avec Michel Piedinelli, s'inspirent, hein. Les artistes s'inspirent, les concepteurs d'art du vivant s'inspirent, hein. J'en parlais ce matin avec Hélène Bescourt, qui était là, qui me racontait comment est-ce que des artistes pouvaient s'inspirer d'écrits de thèses de doctorat, par exemple. Donc voilà, ça me semble être un nouveau mode de fonctionnement, notamment sur les questions d'immigration. Notamment sur les questions de frontières, ça c'est sans doute quelque chose d'important. Et ensuite, on a pu voir aujourd'hui des couples se former, enfin, si on peut dire, hein, des couples se former qui sont des couples. Alors tout à l'heure, tu parlais d'oxymore, de paradoxe. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la frontière, elle nous amène effectivement à développer des couples souvent antinomiques, à savoir par exemple visible-invisible. Ça, c'est un couple. Marc était là tout à l'heure, nous a parlé d'une frontière qui n'existe pas en fait, mais elle était réelle, hein, et c'est une frontière invisible, mais qui est aussi visible par ce qu'il nous a montré, c'est-à-dire les montagnes, le verrou montagnard. Et à ce titre-là, parce que vous avez compris qu'en filigrane on s'interroge si véritablement cette frontière-ci est particulière, a quelque chose, un parfum particulier, un élément particulier. Et l'autre couple, alors visible-invisible, effectivement c'est la frontière qui est tantôt marquée fortement, tantôt disparaît brutalement. Il n'y a plus de frontières. Hein. J'ai cet exemple dans les archives, hein, 1927, dans la Roya, Mussolini devient menaçant. Un appel, on en parlait ce matin, un appel à Nizza Nostra et équipe les frontières de son côté, de forts et de campements, etc. Et le préfet des Alpes-Maritimes s'inquiète de savoir est-ce que les frontières sont bien gardées. Donc il demande aux douaniers de répondre à une enquête, à savoir combien il y a de douaniers qui sont présents au poste frontière de Braye-sur-Roya à l'époque. Et le douanier répond, et c'est l'archive qu'on a pu voir aux archives départementales de Nice, le douanier dit, ben, en 1925, nous, à 18h, on ferme la porte et on s'en va. Donc la frontière disparaît à 18h. Et oui, à 18h, il n'y a plus de douaniers. Et on réouvre la frontière le matin à 8h. Donc évidemment, le préfet est inquiet parce qu'il se dit que, bon, voilà. Et donc, voilà, il y a une sorte d'intermittence qui fait qu'à ce moment-là, ben, la frontière n'a pas forcément de pertinence. Elle ne devient pertinente que dans des contextes particuliers. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Alors, autre couple marquant, c'est cette sensibilité-insensibilité. Hein, Ralph parlait ce matin, voilà, de douaniers ou de policiers qui, à un moment donné, pouvaient céder à la sensiblerie. Et sur les questions de frontières, on est là, entre la vallée solidaire ou pas solidaire, qui est la Roya. Est-on sensible, ne l'est-on pas Donc on travaille sur cette notion d'émotion qui joue beaucoup sur la question des frontières. Et l'émotion, elle est notamment grâce aux artistes. Les artistes nous donnent ce regain d'émotion qu'on n'a pas, nous, parfois, lorsqu'on travaille sur des chiffres un peu froids. Donc on a besoin de cette émotion de temps en temps pour redevenir sensible, pour peu qu'on ne l'ait pas été. Ça dépend évidemment des archives qu'on peut travailler dans ce contexte-là. Je parle pour nous, historiens, mais je pense que peut-être pour les sociologues, politistes et géographes, il y a aussi cette dimension. Et puis, il y a aussi cette notion d'intensité. Hein, alors, je ne sais pas quel est l'autre élément du couple. On ne peut pas dire désintensité. Vide, manque. Immatérialité. Parce que, bon, ça c'est le mot de la journée. C'est l'embouteillage. C'est l'embouteillage dans cette frontière. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des chercheurs qui se tapent dessus, enfin qui se tapent, qui se croisent et qui jouent des coudes. Il y a des militants en permanence. Il y a des policiers. Il y a des hommes politiques qui viennent faire leur ronde. Il y a des journalistes qui épuisent, on en parlait ce matin, les migrants qui en ont marre de répondre à des interviews. Donc on est dans une sorte de lieu d'une rare intensité. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Et c'est revenu en permanence. C'est ce que tu as montré, voilà, cette intensité dont on peut faire des analyses de plusieurs manières. Les seuls qui n'y sont pas, pour réfléchir à ce que tu disais, c'est les identitaires, non ? Pourquoi est-ce qu'ils vont à Briançon, les identitaires ? Ben, c'est une vraie question. Parce que peut-être qu'il y a trop de monde. Et peut-être, c'est pas pour aller dans ton sens, Luca, mais peut-être qu'effectivement, il y a cette image quand même de la vallée solidaire qui peut-être les refroidir d'une certaine manière. Enfin, j'en sais rien, je pose cette question, j'ai eu cette réflexion avec ta question, Suzelle, où tu disais, voilà, les identitaires, ils vont à Briançon, là où il y a moins de monde. Donc le terrain est miné, d'une certaine manière, pour eux. Enfin, c'est une réflexion qui ne vaut que par rapport à ce que vous avez dit dans ce contexte-là. Donc du coup, il y a cette dimension. Et puis bien sûr, l'intensité, elle est avant tout médiatique. C'est-à-dire que quelque part, on s'est beaucoup questionné sur cette médiatisation. Cette médiatisation, on a appris aujourd'hui qu'elle était très ancienne, qu'elle avait une sorte d'ancrage extrêmement inscrit dans le temps, en quelque sorte, que cette médiatisation laisse des traces, hein, qu'elle est effectivement de nature à engendrer un regard qui peut être double et dual. Hein. Bien sûr, d'un côté, la médiatisation n'est pas forcément positive. Hein. Il y a effectivement, voilà, des médias qui, à tout moment, vont parler des frontières et vont descendre à Vintimille. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Hein. À partir de 2011, quand il y a un reportage à faire, c'est à Vintimille qu'on le fait en France, au journal de 20h. On pourrait avoir cette récurrence permanente de, vous savez, un journal lance un reportage, il y a une carte, et la carte fait un focus sur Vintimille ou Menton. Hein, et donc il y a cette habitude journalistique qui se développe à ce niveau-là, qui a à la fois un effet, évidemment, de focalisation, Calais, Vintimille, Calais, hein, et c'est tout. Et le reste n'existe quasiment pas, donc des hotspots. Hein, mais qui a aussi cet effet, me semble-t-il, qui a aussi cet effet aussi de rendre la vallée, de rendre la vallée ou de rendre la frontière peut-être plus sensible aux migrations aussi. Hein, n'en déplaise à ceux qui ne l'acceptent pas. Mais le poste Saint-Ludovic, le poste Saint-Louis, la vallée de la Roya, par cette médiatisation, et en particulier la médiatisation des militants. qui, moi, je la vois effectivement avec un regard un peu extérieur, me semble quand même être un écho très favorable, même si ce n'est pas tout le monde, mais c'est 10% de militants, si on peut dire, si on prend ce chiffre-là, me renvoie effectivement à cette notion de solidarité qui fait que, d'une certaine manière, l'image même de la Côte d'Azur connaît une certaine évolution. N'en faisons pas trop, ne soyons pas non plus angéliques, mais en même temps... On peut le voir assez sensiblement qu'une certaine forme d'image évolue. Alors, est-ce que c'est l'image de la vallée de la Roya contre le littoral ? Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais bon, voilà, il y a un jeu d'image. Et en tout cas, ce n'est pas vain, ce n'est pas inutile. Ça me semble être un élément important. Et enfin, je termine, parce qu'il y a aussi la dimension, le couple matériel-immatériel. On a beaucoup évoqué aujourd'hui du matériel. Au sens strict, quand Marc évoque le passage, on voit du transport du matériel. Quand on a évoqué l'autoroute ce matin et les panneaux attention piéton et le contrôle et les policiers et les véhicules et les camions de gendarmes et la vallée investie par... Mais on est dans du matériel, on est dans de l'équipement. On est dans de l'équipement et en même temps, on est dans l'immatériel. Parce que, voilà, on écoute Michel Séonnet, on écoute les relations qui sont liées d'une certaine manière à cette frontière, et on est lié aussi dans des sortes comme ça de réflexions qui nous sortent du réel, qui nous sortent du matériel. Donc on est, vous voyez, pris par ce contraste de quelque chose qui est fermement matériel et quelque chose qui nous ramène à ces éléments, au contraire, de réflexion, voire d'imaginaire. Et au final, le dernier couple, on l'a évoqué tout de suite à la fin aussi, c'est... la frontière qui est d'une certaine manière martiale, qui est d'une certaine manière qui enlaidit peut-être le territoire, je ne sais pas. Et finalement, un territoire qui est d'une beauté fascinante aussi. C'est-à-dire que voilà, une sorte de fascination, on l'a vu. Hein, que ce soit le littoral, ou le migrant qui passe au pas de la mort, et Enzo me dira, enfin, j'espère qu'il va pas me. Si tu habites à Grimaldi, tu es au paradis d'une certaine manière. Hein, mais voilà, on est là dans un lieu qui est paradisiaque. On tombe sur la mer, on surplombe la mer, et en même temps, on parle de phénomènes tragiques. Ça, c'est un contraste extraordinaire. Et la Roya, pareil, ton documentaire, Luca, il montre une beauté des paysages qui, recherchés ou pas, hein, nous renvoie à cela. Et donc, ça aussi, c'est une spécificité de ce territoire. C'est que cette frontière, elle est aussi dans un cadre majestueux, compliqué, hein, parfois difficile à traverser, et ça le rend d'autant plus intéressant, ce lieu. Voilà. Alors oui, attendez, excusez-moi, je voulais quand même procéder à quelques remerciements. D'abord, remercier Agnès, le musée d'histoire de l'immigration, Michael, remercier très largement Hervé, hein, parce que c'est ça que je voulais dire, matériellement, justement, grâce à Hervé, qui a filmé patiemment, consciencieusement et avec beaucoup de sensibilité la journée, ben ça c'était une ambition importante. Le film, enfin les différentes communications seront donc désormais passeront à la postérité, on pourrait dire, puisqu'elles seront utilisables et diffusables. Certains qui n'ont pas pu à Paris ou ailleurs aujourd'hui, des différentes écoles, différents étudiants, différentes structures qui étaient intéressés par la journée, ben, auront la possibilité à terme, dans quelques semaines, d'avoir non pas les débats, mais les communications. Quelques jours, Hervé, mais c'est du zèle absolu, donc merci vraiment pour ça, parce que voilà, ça c'est une nouveauté tout à fait importante et tout à fait intéressante. C'est un des rendus de la journée, on ne prévoit pas de publication, ça viendra plus tard sous une autre forme de l'activité de l'Observatoire, mais ce sera quelque chose qui sera un livrable que l'on pourra utiliser, que tout le monde pourra utiliser, hein, chercheurs, militants, associatifs, citoyens, écrivains ou autres. La société civile sera... Alors, il faudra avoir le bon accès, le bon lien pour y trouver. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui sera utilisable utilisable à l'envi et dont on pourra ensuite se servir dans ce contexte-là. Donc, merci à toi, Hervé, et merci à tous ceux qui sont venus ici participer ou assister à la journée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, merci beaucoup.